professeur pour cet exposé très complet, très rigoureux, et qui montre bien que la question de primauté concerne les relations intra-orthodoxes et les relations extra-orthodoxes. Il est temps maintenant de vous donner la parole pour éventuellement faire des commentaires ou poser des questions. Alors peut-être pour lancer le débat, je voudrais poser une question aux orateurs qui nous a été posée par écrit. Qui sera habilité pour convoquer le prochain Saint et Grand Concile en orthodoxe?
Alors on dit parfois que le Concile pan-orthodoxe va avoir lieu le deuxième jour après la seconde venue du Christ. Bien sûr, à l'époque byzantine, c'était l'empereur qui a convoqué le Concile. Dans l'Église latine, c'est le pape qui convoque le Concile. Dans l'Église orthodoxe, aujourd'hui, il n'y a pas de mécanisme bien défini de la convocation des conciles. Quand même, le processus préconciliaire qui s'est déroulé des années 60 jusqu'aux années 90 a défini que ça va être le patriarche de Constantinople qui va inviter les autres pour le concile.
Bon, je crois que là, il n'y a pas trop de problème de ce pouvoir de convocation. Enfin, ce pouvoir, cette capacité de convocation, elle est clairement aujourd'hui dans les mains du patriarcat de Constantinople pour des raisons historiques. Et puis, effectivement, on a dimensionné les variants en raison des efforts qui n'étaient pas simplement pour des événements historiques ou symboliques qui existent, mais aussi en raison des efforts au cours du XXe siècle qui étaient particulièrement difficiles pour l'ensemble du monde orthodoxe, pour les efforts qu'a développé le patriarcat œcuménique afin de rendre possible l'idée même de concile. D'ailleurs, il y a un véritable problème sur la manifestation effective de l'unité de l'orthodoxie globale. Avant la chute du mur de Berlin, on disait qu'il est difficile de convoquer le concile parce qu'il y a le communisme. Depuis la chute du mur de Berlin, on dit difficile de convoquer le concile parce qu'il n'y a plus le communisme. Donc, mais en attendant, on a vu que le patriarche Bartholomé a instauré un processus de manifestation visible qui n'avait rien à l'unité de l'orthodoxie, mais qui l'a rend visible à travers les invitations fréquentes qu'il a fait aux différents primats des églises autocéphales, qui, dans l'ensemble de ces réunions depuis 1992, ont été plutôt suivies, mais qui effectivement sont une forme moderne de manifestation de l'unité. Pose tout de même un peu des problèmes, puisque ne serait-ce que par renvoi de l'image au monde d'aujourd'hui, il semblerait que finalement l'Église orthodoxe, ça soit une sorte d'assemblée de 14 ou 15 soupapes, en quelque sorte, si on utilise cette expression, qui serait en quelque sorte assez représentatif de l'unité complète de l'orthodoxie. Alors, il est évident qu'il y a là une initiative, encore une fois, qui est heureuse, parce que, en l'absence d'autres initiatives, à Tolkien, il y a un moment crucial, par exemple, qui était le renouveau du léviatisme à l'Est. Ça a permis de sortir des textes qui exprimaient la conscience, la réprobation de l'orthodoxie, par exemple, sur le renouveau de certains prosélytismes, etc., à la sortie du communisme. Donc, ça n'a pas été totalement vide de sens. Et en même temps, évidemment, ce type de réunion ne peuvent pas suppléer à la manifestation du clero orthodoxe. Donc, le concile et la forme n'est pas la condition. Je voudrais qu'on ne comprenne pas non plus, parce que c'était un peu l'idée qu'avait dans sa jeunesse Mgr Calixtos Ware avec son livre The Orthodox Way, où il parlait de l'église des sept conciles œcuméniques. On ne peut pas non plus, je crois, je pense que Mgr Marion sera d'accord, on ne peut pas non plus opposer comme ça une église de la papauté à une église de la conciliarité, parce que la papauté est la condition aujourd'hui de la vérité de l'Église catholique romaine, mais la conciliarité, elle n'est pas la condition, elle est l'expression. N'est-ce pas ? n'est pas le fait conciliaire n'est pas là pour exprimer la vérité de l'unité de foi, mais pour en être l'expression. L'unité de foi est un ordre sous-jacente au concile. C'est l'unité de foi qui fait d'ailleurs que le concile est dans la vérité et est reçu, alors que le concile n'a pas été toujours dans la vérité et n'a pas été reçu.
Père Nicolas.
Professeur Jean-François, Codissimo, dans votre exposé, à un moment, vous avez parlé du canon 28 du Concile de Calcédoine, et en le commentant, vous avez dit que ce canon donnait le droit et le devoir au patriarche de Constantinople de consacrer les évêques de la mission. Or, je suis étonné dans la mesure où ce mot n'est pas mentionné dans le canon, d'une part, et si cela était vraiment comme ça, donc il n'y avait pas de problème de la diaspora, puisque ce serait que lui qui devrait donner le sacré des évêques, or ce n'est pas ce qui se passe, et donc je suis un peu confus de ce que vous dites.
De
ces trois diocèses, j'ai nommé
très limité.
Très limité, c'est tout à fait. Non, c'est clair. Parce que, et ça, il suffit de lire le père Meindorf et tout ça. Ça n'a rien à voir avec l'idée, je tiens à le dire clair, haut et fort, que ça ne donne aucun droit sur d'autres lieux dans le monde. Enfin, c'est trois diocèses avec leurs barbares qui sont concernés là. Et ça, c'est le sens de la lettre. Nous savons que, malheureusement, en 19 après, n'est-ce pas, la révolution en Russie, ici à Paris, au moment où il fallait justifier l'appartenance de départ de Monseigneur Deloge pour des raisons qu'on peut très bien comprendre politiquement, hein, mais le fait qu'il est parti sous l'homophobe de Constantinople, a provoqué la nécessité de construire une théorie qui a été élaborée à Saint-Serge par le professeur Cartachot, hein, et qui a été repris par les jeunes élèves de Cartachot, Schmermann et Meinberg, tant qu'ils étaient en France. Et quand le père Alexandre dit une phrase qu'on cite souvent, c'est que pour ma part, j'ai assez bataillé pour la primauté de Constantinople pour qu'on puisse me repêcher quoi que ce soit dans ce sens. Hein, c'est dans l'article The Meaningful Storm, écrit au moment de l'autocéphalie de la Rossier dans ma mairie. C'est à ce moment-là qu'il a compris, le fait même qu'il a accepté l'autocéphalie de Moscou a montré que il avait de facto, je dirais, changé d'idée. Maintenant, il est vrai aussi que, et on ne le sait pas assez, que jusqu'à ce moment-là, les têtes pensantes de cette future Occident se sont adressées plusieurs fois à Constantinople pour qu'on fasse un geste dans leur direction. Et c'est les vieux métropolites du synode de Fanal qui leur ont dit mais adressez-vous à l'église de Moscou, Comme dans le temps, c'était le patriarche Athémagoras qui avait écrit à notre cher Monseigneur Georges Taras, mais l'entrée, l'angle de grâce est l'entrée à Moscou. Alors, je dis tout cela pour montrer que l'interprétation du canon 28 de Calcédoine est aujourd'hui en principe tout à fait clair, parce qu'il suffit de lire le texte, hein, c'est une lettre qu'on peut traduire pour dans d'autres langues, mais il y a une interprétation qui malheureusement est née à Paris, qui a été, le Fanon ne sera jamais assez reconnaissant pour cette œuvre théologique créatrice qui a été accomplie à Paris, mais l'histoire de toute façon a déjà montré et va montrer encore que cette affaire-là ne sera jamais vraiment ni justifiée ni même viable.
Bon, alors, pour ce qui est de la question de la fin, très clairement, pour ce qui est de la période qu'on a assignée, et que dans laquelle je me plais, d'ailleurs, pour le premier millénaire, sans plutôt tout faire un certain débat intellectuel, très clairement, il ne faut pas confondre deux choses, qui est d'un côté l'interprétation du concile du 28e canon tel que les révélations prévaut depuis le patriarche Milétios Metaxakis au début du 20e siècle, interprétation sur laquelle je ne me prononcerai pas, ce n'est pas l'enjeu de cette soirée. Il ne faut pas confondre cette interprétation extensive du canon avec l'interprétation qui a prévalu au Moyen-Âge jusqu'à l'époque moderne. Alors, au Moyen-Âge jusqu'à l'époque moderne, page 56 de l'Église orthodoxe du Père Jean-Pierre Nord, conformément au 28e canon du Concile de Calcédoine, le patriarche de Constantinople a sacré des évêques pour les églises de mission. Ça, c'est l'interprétation médiévale. D'accord ? Et ça ne se situe pas dans trois diocèses, c'est à la suite de ce canon. Et ça s'est d'ailleurs passé, je finis, et ça s'est passé d'ailleurs historiquement comme ça. Tout simplement. Tout simplement, ça s'est passé historiquement comme ça. Ce qui ne veut pas dire, donc il y a deux problèmes, quand même, il faut être un peu sérieux comme entendre. Il y a deux problèmes. C'est que si de ce fait historique et de cette interprétation médiévale, le patriarcat œcuménique pense aujourd'hui pouvoir tirer une leçon qu'il voudrait absolument pour aider. Question, par exemple de la diaspora, etc., ça semblerait être une logique interprétative assez courte et une conception quasiment littérale du droit canon qui aurait beaucoup de difficultés à rencontrer la réalité, n'est-ce pas ? Et d'ailleurs, c'est le fait. Mais nier que historiquement ce 28e canon ait été revendiqué par le patriarcat de Constantinople et pour le bien, souvent, ça, on ne peut pas le nier. De la même manière qu'on ne peut pas nier qu'il y a eu nombre de patriarches de Constantinople qui, encore une fois, pour le bien de l'Église, sans jamais la théoriser, ont administré une conception de la juridiction universelle qui n'avait rien à envier à celle des papes de Rome, à commencer par le grand patriarche Philodécokinos, patriarche palamite du XIVe siècle, et dont la conception qui se donnait de son patriarcat, encore une fois, était plus qu'autoritaire. Et c'est pas lui qui aurait convoqué un concile pour savoir s'il était dedans, dehors ou à côté. D'accord ? Donc, je pense qu'il y a plusieurs problèmes qui sont là, qui sont les principes ecclésiologiques. Ensuite, l'exercice de ces principes à travers l'histoire. Ensuite, le résultat de ces principes à travers l'histoire. Mais encore une fois, les Bulgares, les Serbes, les Russes et d'autres ont eu des évêques un jour, ces évêques se sont inscrits dans une succession apostolique qui trouvait sa source à Constantinople. Donc là-dessus, il ne faut pas, je veux dire, inverser le processus et lire de travers l'histoire, parce qu'on a des débats contemporains qui sont certainement des débats sérieux, mais les débats contemporains qu'on peut traiter comme des débats contemporains, et l'histoire comme l'histoire. Donc, c'est bien parce qu'il y a le canon 28 de Calcédoine que Constantinople a trouvé toujours normal, et les peuples missionnés ont trouvé normal aussi, que Constantinople et sa chrétienté. Jusqu'à ce qu'effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, les églises émergentes, à partir de ces sacres, se soient retrouvées souvent en conflit avec le patriarcat, c'était aussi historiquement, qui a souvent eu du mal à leur conseiller de se mettre dans l'histoire. C'est indicatif de l'histoire. N'est-ce pas ? Souvent du mal à leur concéder leur existence propre, encore que ça a dépendu des moments, pour des raisons aussi d'opportunités politiques. Donc tout ça est assez complexe. Si on ne contextualise pas les choses, on va finir par dire à peu près n'importe quoi et ne pas respecter même l'histoire de l'Église orthodoxe telle qu'elle s'est déroulée, avec forcément aussi des rois d'Église et d'Église dans cette nature mystique, mais aussi dans la réalité de l'histoire. N'est-ce pas ? Donc, dans cette réalité-là, il y a eu une interprétation du canon 28 qui a permis effectivement l'extension de l'Église. Disons que par exemple, une bonne façon de se poser la question aujourd'hui, plutôt que de batailler sur un sens littéral ou extensif d'un canon qui a été quand même écrit au 4e siècle, enfin au 5e siècle, loin de nous, la meilleure chose ce serait de se dire pourquoi et dans quelles circonstances ce canon a été à un moment, l'interprétation de ce canon a été à un moment féconde pour l'Église orthodoxe, et l'interprétation de ce canon est-elle féconde aujourd'hui pour l'Église, ou le contraire d'ailleurs. Là-dessus, on peut discuter pendant des heures. Mais on ne peut pas nier le fait qu'il y ait eu une utilisation circonstanciée du canon qui n'a pas toujours été négative, qui n'a pas non plus toujours été positive. Tout ça, c'est du ressort en fait de l'histoire telle qu'elle se fait, dans le réel, et non pas dans l'imaginaire, des représentations telles qu'elles soient. Excusez-moi.
Est-ce qu'on ne peut pas considérer que cette façon de dire que les évêques ont été nommés par les évêques de la mission, ont été nommés par Constantinople, parce que justement c'est Constantinople qui a duré la mission. Et que
c'est une manière de le dire, mais si on comprend bien en même temps, que assurer la mission, ça n'est pas non plus la définition de la primauté.
Non, mais justement, que historiquement, ça se fait comme ça.
Mission,
les territoires qui étaient où la mission s'exerçait par l'évêque de Rome, et ce n'était pas l'évêque de Constantinople qui nommait les évêques. Il me semble, l'idéologien d'historien d'église, je suis ancien banquier.
Non, il me semble, je vais arrêter là, parce que c'est exactement le genre de débat qui, pour moi, très sincèrement, est un débat de tort et de raison qui ne m'intéresse pas vraiment. Le véritable problème de l'Église orthodoxe aujourd'hui, ce n'est pas de savoir si quelqu'un a la bonne interprétation du canon 28, c'est de savoir pourquoi nous sommes en train de passer à côté du réel. C'est ça la question.
Alors, on va peut-être l'histoire.
Alors, ce débat-là. Non, si vous pensez que l'interprétation singulière du canon 28 va nous faire un électrochoc et nous faire rentrer dans le réel, moi je veux bien. J'ai d'autres moyens, plus sûr.
Juste une chose, parce que c'est quand même un peu comme beaucoup.
On n'arrive pas à clore ce débat-là.
Je suis d'accord qu'il faut être sérieux, et que je pense que ce n'est pas le privilège qu'il faut dire. Donc, je veux dire qu'il est très clair, et le père Jean aussi a eu, comme nous le savons tous, sans doute, une évolution, n'est-ce pas, dans sa pensée. On a cité le livre d'orthodoxie qui a été écrit, je ne sais pas, on ne sait pas quelle année, mais je peux vous en renvoyer au livre Unité de l'Empire et Division des Chrétiens, je ne sais plus à quelle page, où il étudie et commente en détail le canon 28, et où il dit très clairement que ce canon parle des trois diocèses et n'a rien à voir avec une quelconque autre affaire. Je signale ça tout simplement et calmement et gentiment. Maintenant, deuxièmement, je pense que c'est tout à fait vrai qu'il ne faut pas mélanger les genres. Et il est clair que, bien sûr que Constantinople, dans l'Empire byzantin, a été le centre de Constantinople partaient les missionnaires. C'est évident, ça se voit même dans l'iconographie. Je n'en parlerai pas. Mais, ceci était fonction de l'Église impériale. Et
ça m'avait dit, j'insiste, que l'utilisation du 28e canon de Constant, de Chalcédoine, pour justifier une mission universelle dans le sens
de moi, c'est pas la question du père Séraphin Agnider. Dans le cadre de mon exposé. Donc j'ai répondu dans le cadre de mon exposé. Je n'ai jamais à aucun moment abordé les questions d'interprétation moderne. C'est une toute autre question. Oui. Et on ne peut pas passer de l'un à l'autre comme ça sans médiation. Sinon, ça ne va pas sincèrement. On m'a posé une question sur ce que j'ai dit, j'ai répondu sur ce que j'ai dit. Et ce que j'ai dit, je le maintiens. Et si maintenant il y a d'autres discours, c'est tout à fait autre chose. Je suis prêt à répondre à d'autres questions.
Oui, mais on est d'accord. On a dit qu'il y a des questions de la France et qu'on pouvait s'exprimer. Donc je comprends pas très bien pourquoi on peut me donner la parole.
Arrête-toi.
Je finis en deux phrases. Hein? Très simple. Donc, il est clair que ce canon de Chalcédoine avait, d'après les interprètes et les historiens compétents, n'avait rien à voir avec l'interprétation de, comme tu dis, Métaxas. Voilà, c'est tout.
Bon, je voudrais vraiment qu'on change de sujet. Et bien, c'est le même sujet ou pas? Alors, bon, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour, le professeur. Bonjour. J'aurais une question. Peut-être est-elle sémantique, mais peut-être est-elle juridico-canonique. Vous pourrez m'éclairer sur ce sujet. Il y a une question qui est souvent débattue sur le forum. Est-ce qu'on parle d'un patriarcat œcuménique ou est-ce qu'on parle d'un patriarche œcuménique? En d'autres termes, depuis tout à l'heure, on entend quand on parle du primat de Rome ou du primat de Constantinople. On a dit également que l'Église est organisée de manière conciliaire, c'est-à-dire que ce n'est pas une personne, en tout cas dans l'Église orthodoxe, qui détient l'étude, c'est l'ensemble de la consularité. À partir de là, je reviens à la question de départ. Est-ce que c'est le patriarche de Constantinople, en tant que personne, en tant qu'individu, qui a une certaine primauté d'honneur que d'autres patriarches ailleurs, ou est-ce que c'est l'ensemble de l'Église de Constantinople qui, en tant qu'entité ecclésiale, a une certaine primauté d'honneur sur les autres églises? Ça n'est pas exactement la même chose, et ce serait intéressant pour vous clarifier ce point. Monseigneur, vous pouvez peut-être répondre à cette question.
Le patriarche de Constantinople est considéré traditionnellement comme le premier parmi les égaux. Mais il y a aussi un système qui existe maintenant, selon lequel dans chaque rencontre inter-orthodoxe ou pan-orthodoxe, le président doit être en hiérarchie du patriarcat de Constantinople. C'était le système qui était aussi, si je me souviens bien, installé par les discussions préconciliaires des années 60.
Mais la question de savoir si on peut toujours considérer. Il y a une discussion qui est un peu fâchante ici. On dit le patriarche œcuménique. On dit le patriarcat œcuménique. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ça n'a pas d'importance? Ou est-ce qu'il faut faire une distinction entre le patriarche œcuménique et on peut le dire, et le patriarcat œcuménique, mais on ne peut pas le dire, ou on peut le dire aussi?
Mais il me semble que le patriarche œcuménique exerce ses fonctions de coordinateur justement en tant que le primat du patriarcat œcuménique. Je ne sais pas comment on peut séparer la personne de ses fonctions.
Là, c'est tout à fait fonctionnel interne. L'archevêque de Paris, il est à la tête de l'archevêché de Paris, et c'est parce qu'il est à la tête de l'archevêché qu'on appelle l'archevêque. Enfin, je veux dire, il me semble que là, c'est vraiment, là, on frise d'abîme de méditation sémantique, et on l'appelait vraiment très loin. Quant au terme œcuménique, le Monseigneur l'a rappelé, c'est un terme traditionnel qui a un sens très précis, c'est un titre quasiment honorifique, mais surtout archevêque de Constantinople, la Nouvelle Rome, et il était le seul à avoir ce titre archiépiscopal avec l'archevêque de Rome, c'est ce qui les distinguait tous les deux par rapport aux trois autres centres patriarcaux dans la patriarchie.
Merci. Je voudrais juste apporter une précision. Le processus de Genève, d'un grand et saint concile pan-orthodoxe, d'abord, comment peut-on savoir qu'il est grand et saint? Il y a eu des conciles qui ont été déclarés de brigandage par la suite, donc déjà il y a un problème. Mais ce processus-là n'a pas été reçu dans l'ensemble des églises orthodoxes, et notamment par l'église de Serbie, qui l'a ouvertement récusé dans l'ordre des conciles locaux.
Merci de cette précision. Je voudrais, attendez, avant de passer la parole à Madame qui demande, une autre question qui a été posée par écrit et qui est très concrète. Comment remédier pratiquement au fait que sur certains problèmes, les églises orthodoxes n'arrivent pas à s'exprimer d'une seule et même voix, la voix de l'église orthodoxe? Ça pose des problèmes qu'on a évoqué déjà des deux côtés, mais si vous voulez.
Tant que Monseigneur Hilarion prenne connaissance de la question, il est évident qu'il y a. C'était un autre article du Père Jean Méador qui est plus récent que celui sur l'orthodoxie, à un communicant patronné. Que ça soit dans les formes historiques que nous avons connues ou pas, il y a la nécessité d'une manifestation d'une unité qui, encore une fois, ne joue pas à l'unité, mais qui en est l'expression. Ça, c'est évident. L'Église a toujours vécu comme ça, chaque fois qu'elle a été libre, qu'elle en avait moyen. Toujours. C'est bien parce que depuis 5 siècles, il y a une traversée du désert de l'histoire, que nous avons perdu le contact avec ce que c'était l'expression de l'Église au premier millénaire. N'est-ce pas? C'est ce difficile rapport à la modernité, une modernité agressive qui a été extrêmement corrosive pour les Églises, qui a fini par naturaliser des comportements qui ne relèvent pas de l'ecclésiologie orthodoxe. Cela dit, quand je dis que ça finit par naturaliser des comportements qui ne relèvent pas de l'ecclésiologie orthodoxe, c'est qu'évidemment, il y a des comportements qui relèvent d'une mauvaise compréhension de ce ministère de l'unité, qui peuvent être des comportements de négation de ce ministère, mais aussi des comportements d'exaltation de ce ministère au-delà de ce qui en est le véritable fondement. Et qui plus est, évidemment, ces questions sont rarement examinées en dehors de contextes politiques, économiques, sociaux, qui les surdéterminent, et très souvent le langage de l'Église devient prisonnier, en fait, d'autres langages, voire d'autres ambitions, voire d'autres agendas, n'est-ce pas? Mais qu'il y ait le besoin d'un service de l'unité, je ne pense pas que théologiquement on puisse dire le contraire. Encore une fois, si ce service de l'unité n'est pas compris comme quelque chose qui surviendrait à l'unité pour la faire, et qui en serait l'expression. Il y a évidemment de ce point de vue-là, en sachant bien que ça n'ajouterait rien à la catholicité de l'Église et des Églises. Mais l'Église ne vit pas que de catholicité.
Vous vouliez répondre aussi? Non? Ça va?
Oui, madame.
Alors, moi, je vais juste me permettre de résumer en 3 mots ce que j'ai compris de ce qu'a dit le François.
Je pourrais juste le suite. Impossible, je n'aurais jamais dit ce que j'ai dit en 3 mots.
Voilà.
Vous auriez moins souffert, moi aussi, mais je n'aurais pas pu le dire en 3 mots. Les interprétations sont
là. Que premièrement, les canaux n'ont qu'un rôle subjectif quand on ne trouve pas mieux, et quand on s'en sert, de toute façon, ils doivent être contextualisés. Donc moi, je suis juriste, j'en déduis que de toute façon, ils ont forcément fait ce qu'on veut, et on les interprète comme on souhaite en fonction des circonstances historiques et du moment où ils ont été écrits et du moment où on les interprète. Deuxièmement, tu as dit, l'évêque de Constantinople n'avait droit à la primauté que parce que Constantinople était capitale impériale à l'époque. Donc moi, j'en déduis qu'avec la chute de Byzance, il n'a plus droit à aucune primauté. Et par conséquent, j'en déduis aussi que la primauté ne se définit que par la force, si je puis dire, du siège où se trouve l'évêque qui prétend la primauté. Par conséquent, est-ce qu'il faut m'en dire que lui, la primauté, soit il faut l'oublier parce qu'il y a son empire, soit il faut dire qu'il faut regarder où se trouvent les évêques dans les pays les plus forts de l'époque en question. On voit les États-Unis, on voit en Russie, on parle du Chicago encore, etc. Donc est-ce que c'est ça ce que tu as dit?
Si j'avais voulu dire ce que tu me fais dire, je n'aurais pas eu besoin d'importe quoi pour le dire, et si donc je ne l'ai pas dit, c'est que certainement je n'avais aucune intention de le dire. Certainement pas, le droit canon, ce n'est pas du droit, donc une juriste déduise de ce que j'ai dit une forme de relativisation des canons comme des purs signes juridiques, c'est possible d'un point de vue juridique, ce n'est pas possible d'un point de vue ecclésial. Parce que ces canons manifestent la réalité aussi du pèlerinage historique de l'Église, de son pèlerinage terrestre à travers l'histoire. Ils ne sont pas indifférents. Ce que je disais, c'est qu'il ne faut pas avoir une lecture fondamentale ou littérale. N'est-ce pas? La contextualisation, ce n'est pas de dire « Ah, le canon est relatif et on peut s'en passer », c'est de comprendre quelle intention il y avait derrière, du point de vue de l'économie divine. Donc c'est assez différent comme perspective. Ça, c'est le bon pour un premier point. Le deuxième point, c'est que si je pensais que tout était... Alors, deuxième point, c'est que la vie du patriarcat de Constantinople a vécu, par-delà le patriarcat lui-même, pour l'ensemble du monde orthodoxe, bien après la chute de Byzance. Quand à l'Empire romain, il est mort en Occident au IVe siècle, et Rome est restée dans Rome, y compris pour la partie orientale de l'Empire jusqu'au schisme. Donc ce raisonnement de ce qui a été donné et repris parce que la définition ne s'applique plus, n'a jamais été vécu comme ça, ni dans le christianisme occidental, ni dans le christianisme oriental. Donc là aussi, ça ne marche pas. La déduction ne marche pas. Et le troisième point, c'est que s'il fallait effectivement suivre une logique impériale, alors la logique a prévalu dans l'Empire, parce qu'il s'est converti au christianisme, c'est à New York qu'il faudrait aller, n'est-ce pas, après le siège de l'ONU. Mais le problème, c'est que la logique qui a prévalu dans un temps de christianisation, c'est pas la logique qui peut prévaloir dans un temps de déchristianisation. Donc je n'ai rien dit de tout ça, vraiment, pas parce que ça me fait peur, etc. Si j'ai des choses à dire, je ne les dis pas moi-même. Je n'ai rien dit de tout ça. Ce que je vais vous montrer à travers l'exercice qui m'a assigné, c'est que, en fait, c'est la conformité au plan du salut qui détermine l'ordre canonique, et que cet ordre canonique, en plus, ayant été expérimenté dans l'histoire, comment cette histoire pourrait être, elle, nulle à nos yeux? Comment pourrait-on opposer une histoire de l'orthodoxie contre une autre histoire de l'orthodoxie? Est-ce que ce n'est pas toute l'histoire qu'il nous faut ressaisir de manière paisible afin de dégager de l'histoire des leçons, non pas pour aujourd'hui, mais pour demain et après-demain? Voilà mon attitude. Mais j'avoue que sur toutes ces questions-là, je n'ai pas de prescription à faire. Et je n'ai pas de transfert à opérer.
Oui, je crois qu'on s'approche de la fin de notre réunion parce que on va rester encore très longtemps. Mais il y a un certain nombre, parce que vous ne voyez pas les autres. Je pense qu'on va donner la parole à Marouche brièvement pour une question. Peut-être encore monsieur et la parole, et puis après on va s'arrêter.
On prend les trois questions peut-être. Ouais.
Bon, alors vous ne posez pas la question, puis on répondra en trois.
Allez, on va d'abord Marouche.
Ce qui m'intéresse, ce sont les questions de territorialité. C'est-à-dire, nous sommes sur un territoire catholique. Est-ce que ce n'est pas, en quelque sorte, une agression si nous créons une église avec toutes les orthodoxes réunies, une église locale, avec les Serbes, les Roumains et les autres, sur un territoire catholique? Est-ce que ça n'empêchera pas une bonne marche future pour justement une bonne entente et peut-être éventuellement une réunion des églises
D'accord. Merci. Nous avons très bien compris la question. Nous allons répondre après que les deux autres questions soient posées pour pas que ça aille trop loin.
J'ai moins une question que je voudrais exprimer comme théologien catholique, une joie. C'est la méthode historique, parce que nous l'avons certainement désormais en commun. Et je voudrais à ce sujet peut-être rappeler comment celui qui est actuellement le pape, mais qui a été théologien Ratzinger, est quelqu'un qui connaît bien l'histoire du premier millénaire. Et il me paraît extrêmement intéressant que c'est quelqu'un qui a au moins, du point de vue de l'histoire des doctrines, c'est au moins un bon historien. Et il s'est appuyé sur d'autres, par exemple le père de Frise, qui a 50 ans déjà, a montré que les conciles écuméniques n'avaient pas concédé beaucoup de pouvoir au siècle de Rome, disons. Mais ce que le cardinal Ratzinger a écrit et réécrit comme pape, c'est quand même ceci, c'est que aucun théologien sérieux ne devrait penser que la forme et la figure qu'a prise la papauté la fin du XIXe siècle, le début du XXe, est une forme nécessaire, d'abord dit-il, ensuite une forme qui s'imposerait à tous les chrétiens, et troisièmement, dit-il, on ne doit demander à l'Église orthodoxe que ce qui a été accepté par le premier millénaire. Et il est certainement un théologien dans notre Église et qui sait ce qui s'est passé pendant le premier millénaire. Et donc cette méthode historique de contextualisation que le professeur Colosimo l'a souligné me paraît être quelque chose qui peut nous permettre d'avoir vraiment une discussion de part et d'autre, quelles que soient les difficultés d'interprétation que vous avez allusion au début. Ça me permettrait beaucoup d'avancer. Et j'ai été extrêmement encouragé aussi par ce que Mgr Hilarion a dit. Mais je crois que ce que l'historicité, je suis trop long, ce que l'historicité dit chez nous, c'est ceci, c'est que Vatican I doit être relu, et qu'à notre point de vue, c'est légitime, et non seulement c'est légitime, mais c'est même requis. Mais c'est à nous de le prouver.
Merci de cette remarque. La dernière.
Moi, je voulais juste féliciter en fait les deux interventions, parce que je pense que les deux cas, Jean-François en fait a été très clair. Je pense qu'il a une certaine distance par rapport à un sujet très difficile, en fait, à essayer de résumer un peu tout ça. Et il a traité, il a parlé aussi d'une question. Qu'il n'y a pas de concept de primauté qui est déjà défini, en fait, le terme de primauté n'existe pas. Et Mgr Hilarion aussi est parti de l'ecclésiologie de Ignace d'Antioche. C'est pas parce que je suis antiochien que je le répète, mais je pense qu'à un moment donné dans la discussion, dans le débat, il faut s'élever, je dirais, par rapport à la radicalité du message de l'Évangile et par rapport à notre responsabilité consciente en tant que chrétien. Dans une foi considérée comme étant une foi vivante et non pas une foi vécue comme un dépôt, une tradition qu'on a reçue ici ou là. Je pense que Mgr Hilarion a parlé en fait de l'essentiel, dans le sens qu'est-ce que revenir à l'essentiel, c'est-à-dire revenir à l'ecclésiologie de base. C'est quoi l'ecclésiologie de base? C'est l'ecclésiologie de l'Église locale. Oui. C'est l'ecclésiologie d'Ignace d'Antioche. Et d'ailleurs, en fait, le canon 34 des apôtres. Toute la dynamique, moi je suis avocat, je sais comment on écrit les lois, comment on les construit. Toute la structure, je dirais, juridique de ce canon-là part de la dynamique, de la respiration de l'Église locale. Parce que lorsqu'on dit en fait qu'on commence par dire qu'ils doivent connaître et reconnaître, premièrement la connaissance et après la reconnaissance, et que l'épiscope ne fasse rien, pardon, que les autres ne fassent rien sans le consentement de l'épiscope. Ça ne veut pas dire que l'épiscope, il est là, et dans une conception un peu top-down qui décide les choses. Au contraire, il y a une respiration qui monte de l'Église locale. Et je pense que ça continue dans la deuxième partie du canon, dans lequel on dit, et que eux aussi ne fassent rien sans la concorde, en fait, sans l'accord de l'épiscope. Et aussi, on parle d'une question, je ne sais pas si ma prononciation en grec sera la bonne, c'est la homonymie, c'est-à-dire la concorde. Dans ce terme-là qui existe dans ce canon-là, aujourd'hui j'ai l'impression que parfois on l'oublie dans nos discussions, et d'ailleurs, comme l'a très bien démontré, je pense, Jean-François, il a bien dit qu'il y a des interprétations, il y a des conceptions, il y a deux différentes lectures de l'histoire, il y a des choses qui se sont ajoutées comme des composantes historiques qu'on peut relativiser à travers une méthode historique, comme l'a dit le père Hervé Le Grand. Mais aujourd'hui, le débat, c'est comment on se projette, je dirais, dans l'actualité de l'Église. Et moi, ce que je regrette, c'est un peu ce soir, je suis obligé de partir, sinon ma famille va m'assassiner, c'est comment on se projette dans l'avenir, à partir de là. On a posé tout ça, c'est très vrai. Mais aujourd'hui, par exemple, si on prend le terme de concile œcuménique, d'ailleurs, le concile panorthodoxe n'en est pas un, parce qu'on ne parle pas de concile œcuménique orthodoxe, on parle de concile panorthodoxe. Comment on définit un concile œcuménique? Il y a deux composants dans la définition, si je me trompe. Enfin, la première, bien sûr, c'est la réunion en fait, des évêques, mais ce n'est pas que la réunion des évêques. Parce que dans la tradition orthodoxe, on a toujours appris que le plus important, c'est la réception du concile. Comment aujourd'hui, si un concile œcuménique s'organise, comment la réception par le peuple orthodoxe, en fait, dans cette configuration mondiale? Bien sûr, il y a des interprétations du canon 28 dans tous les sens. On peut discuter pendant des... Comme vous l'avez dit, Monseigneur, très bien, et vous ne connaissez pas cette anecdote, c'est que le concile panorthodoxe s'est réuni le deuxième jour après la venue du Christ. Ça, c'est notre façon d'orthodoxe, en fait, de parler de tout ça. Mais comment, aujourd'hui, proposer quelque chose de concret, de réel, de nouveau, en se basant sur la tradition, mais comment on se projette aujourd'hui dans la vie? Et je pense que c'est de cela dont on parle peu.
Bon, on va terminer, là, parce que Monseigneur va bientôt partir. Je voudrais qu'on réponde un peu à la question de Marou, c'est parce que ça préoccupe un certain nombre de gens. Loco, tu veux
Je pense que c'est tout le problème de l'évangélité orthodoxe que de vivre encore sur le traité de Westphalie. De Westphalie dans un monde qui a abandonné le traité de Westphalie, c'est-à-dire de penser en termes de territoire. La globalisation et le flux migratoire font que la notion de territoire est une notion qui a complètement évolué, que ce soit les territoires nationaux, les territoires canoniques, les territoires tout court, agraires, etc. Vous voyez, par exemple, c'est un des problèmes aujourd'hui de la République que de repenser une identité française qui soit en même temps assez forte et assez minimale pour accueillir une pluralité due au flux migratoire. C'est très important. C'est ça le débat d'aujourd'hui. C'est le débat d'aujourd'hui, c'est comment on fait pour construire des identités à partir de la multiplicité. C'est un débat aux États-Unis aussi. C'est un débat dans tous les pays de l'hémisphère nord parce que les migrations vont du sud au nord. Donc, c'est un débat aussi pour les églises orthodoxes. Il est évident que un des moyens qu'a eu l'orthodoxie de parachever, de sortir de son amputation de l'Occident, de la séparation qui l'a condamné pendant des siècles à être dans un territoire justement qui était parfaitement circonscrit de laquelle elle sortait à peine, sauf sous la forme, d'une part, de conquêtes militaires, souvent, accompagnées de missions, mais c'était pour tout le monde comme ça à l'époque, ou alors de retrait de territoire, par amputation de ces territoires, voie de massacre, génocide, etc. Et les bassins restent les mêmes. Bon, elle est sortie là grâce au flux migratoire. Bon, à partir de ce moment-là, elle n'a pas été la seule à migrer non plus. Je veux dire par là que la France soit une terre baigné par le catholicisme, je suis le premier à le répéter partout et à défendre cette idée absolument. Dire qu'aujourd'hui la France serait une terre catholique, je pense que ça va faire beaucoup de plaisir aux pères qui sont là de l'entendre, parce que eux-mêmes avaient un peu de mal tout de même à le croire aussi simplement que ça, n'est-ce pas? Donc on est condamné à la diversité. Pour moi, le problème que vous posez, j'y arrive. Mon problème, c'est pas d'être orthodoxe en France, c'est que je voudrais être sûr que les non-orthodoxes aient les mêmes droits dans les pays dits orthodoxes que moi j'ai en France. C'est que cette réciprocité qui peut fonder notre existence ici, en liberté, dans le respect des identités, des héritages, etc. Voilà, et de ce point de vue-là, je vais vous donner la réponse, il y a beaucoup de pays orthodoxes qui ont beaucoup de progrès à faire du point de vue du respect de la liberté de conscience. Donc, de pays orthodoxes qui se disent de tradition orthodoxe.
Si vous voulez rajouter quelque chose, monseigneur.
Très court.
Très court. Parce qu'on a posé la question, on a dit pour demain et pour après-demain, et ça c'est certainement vrai. Alors, pour demain et pour après-demain, c'est clair. C'est encore le père Alexandre Schumann qui a bien montré qu'il y a trois couches dans notre héritage canonique. Et la première couche est celle qui est l'antique, la deuxième impériale et la troisième est l'innationale. Autrement dit, ce qu'il faut aujourd'hui, au moment de la globalisation, de tout ce qui va venir, il faut revenir dans toutes les églises orthodoxes au principe de l'ecclésiologie eucharistique, bien comprise, hein, pas comme l'a compris le père Athanase lui-même à la fin de sa vie, parce que là il s'est mis le doigt dans l'œil. Mais le Afanassef le premier, hein, quand il a dit que chaque église, dans telle et telle ville, est la plénitude de l'église, et toutes ces églises sont en communion, leurs évêques sont égaux, et tout va mieux, pour le mieux dans le meilleur du monde.
Oui, alors je voudrais d'abord remercier beaucoup de force et de chaleur de la Lyon. Jean-François Colossimo, le chanteur qui nous a beaucoup apporté. Je remercie aussi l'assistante pour les questions très intéressantes qui ont été débattues. Et je remercie aussi pour la vivacité des interventions parce que ça témoigne de notre souci pour l'Église. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'important pour progresser. Merci beaucoup.